Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Écoutez le podcast Over and Out. Donc cette histoire est complètement folle et très 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 surprenante. Il y a beaucoup de groupes, de développement, de punch assez intense qui ont eu lieu. L'histoire qui suit prend place le 25 juin 1983 dans la forêt nationale de Helena dans l'état de Montana. Je pense que c'est la première histoire que je parle qui a eu lieu à Montana. Donc nous avons la petite Nylene Marshall de 4 ans qui est en pleine excursion dans la forêt avec sa mère et son beau-père. Ils sont tous ensemble dans les montagnes Elkhorn. Nylene et ses parents font un pique-nique en forêt. C'est une belle journée qui s'annonce pour eux. Il y a d'autres familles qui font aussi des pique-niques et Nylene se fait des nouvelles amies. Donc la petite Nylene jouait dans le parc avec ses nouvelles amies. Il était environ 16h quand ses amies s'éloignent un peu. Nylene, elle, décide de rester assise près du ruisseau Maupin. Il y avait un barrage de castors là, dans le ruisseau, donc elle s'est assise là en attendant que ses petites amies reviennent. Elle a seulement 4 ans, donc elle peut pas suivre ses amies tellement, là, elle est encore très jeune. Donc, ses amies sont parties à la course, se sont retournées, et juste comme ça, en l'espace de quelques secondes, Nylene avait disparu. Quand les petites filles ont été interrogées par la police, les parents, ils ont dit que plus tôt dans la journée, elles avaient vu Nylene en train de parler à un homme inconnu. Elles l'ont décrit comme étant un homme assez grand qui portait un habit de jogging mauve et apparemment, il aurait demandé à Nylene de jouer avec lui au jeu de l'ombre. Donc c'est la dernière fois qu'on a vu Nylene. On ne sait pas si cet homme était impliqué dans la disparition de la jeune fille, peut-être que oui. Peut-être que non, mais ni lui ni Nylene ont été retrouvés par la suite.
The area where Nylene went missing is much like the area around me. Dense forest, steep, rocky terrain. And Ralph DeCunzo, formerly with the Lewis and Clark County Search and Rescue, led the way looking for the missing girl.
And for a long, long time, and even still somewhat today, that search haunts me.
Une recherche intensive de la région a été effectuée pendant plus d'une dizaine de jours. On a tout fouillé le parc de fond en comble, mais rien n'a été retrouvé. On n'est pas mal sûr que la petite Nileen a été kidnappée. Le FBI a même envoyé genre des experts pour fouiller des mines abandonnées de la région. Mais encore là, sans résultat. Donc on n'a pas eu de nouvelles de Nileen. C'est un peu peine perdue si on veut. T'sais, on a fouillé la région, on a fouillé la forêt, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc on n'a pas eu de nouvelles jusqu'en 1985, soit 2 ans après la disparition de Nileen. Donc le 27 novembre 1985, il y a un appel anonyme qui a été fait à NAMOS, donc le Centre national des personnes disparues et retrouvées, donc c'est un site assez populaire aux États-Unis. Il y a un homme qui a appelé NAMOS pour dire que c'était lui le responsable du kidnapping de Nileen. On n'a jamais pu identifier cet homme, mais là, 2 mois plus tard, soit en janvier 1986, il y a une lettre anonyme qui a été envoyée à la police du Wisconsin, et c'est une lettre écrite à la machine, là, donc on n'a pas pu identifier la main d'écriture. C'est assez étrange parce qu'on a reçu la lettre dans l'état du Wisconsin, mais Nileen, on sait qu'elle a disparu dans l'état du Montana. Donc la lettre est assez troublante, on n'a pas accès à la lettre au complet, mais on a accès à quelques extraits que je vais vous lire. C'est assez troublant, comme je vous dis, j'aurais aimé voir la lettre en entier, mais là, on a quand même des bons extraits, là. Donc, premier extrait, « Je ne voulais pas qu'on essaie d'obtenir des infos sur elle. Tout ce que je peux leur dire, c'est qu'elle va bien. J'espère que l'association Child Find peut transmettre cette info à sa famille. J'ai ramassé Kay sur le bord de la route du parc Elkhorn, entre Helena et Boulder. Elle pleurait et était effrayée. Quand je l'ai prise dans mes bras, elle tremblait. J'ai donc décidé de la garder et de l'aimer. Je l'ai ramenée à la maison avec moi. » Un autre extrait. « Je reçois pas mal d'argent provenant d'un investissement que j'ai fait. Je peux donc travailler de la maison et prendre soin d'elle moi-même. Je lui fais l'école à la maison et elle aime me suivre quand je voyage. » Donc c'est intéressant parce qu'on pense que c'est un homme qui a quand même beaucoup d'argent. S'il est fait, il vit de son investissement, il travaille pas, il travaille à la maison du moins. Et il voyage beaucoup. Elle a vraiment grandi, ses cheveux sont maintenant courts et frisés. Elle mesure 45 pouces et 50 livres. Elle a maintenant 4 dents d'adulte en haut et 2 en bas. Elle prend son bain et brosse ses dents à chaque jour. Elle mange bien, sa nourriture préférée est la pizza et les cerises. Un autre extrait. Elle pourrait vous raconter avec plaisir ses voyages à San Francisco, New York, Oklahoma City, Nouvelle-Orléans, Nashville, Chicago, Puerto Rico, Canada. Nous sommes même allés au Royaume-Uni durant 1 mois l'an dernier et elle a adoré. Personne n'a posé de questions sur son passeport. Donc moi aussi, je me posais des questions par rapport au passeport, mais je vous rappelle qu'on est en 85. Et ce qui est étrange, c'est que Nileen, elle aurait été vue à plusieurs reprises un peu partout dans le monde, comme dans des histoires de disparition. Ça arrive souvent qu'il y ait des témoins qui pensent avoir vu la personne disparue à tel endroit de la planète. Et étrangement, les endroits où on pense avoir vu Nileen, c'est les endroits qui sont mentionnés dans cette lettre. Par exemple, Royaume-Uni, Nouvelle-Orléans, Chicago. Donc ça nous donne des petits indices, puis on se demande si c'est vrai, là, cette lettre-là. Un autre extrait, donc on voit que cet extrait commence comme au milieu d'une phrase. Ce que c'est où, d'où ça vient, mais je peux vous dire que je l'obtiens dans la salle de bain à tous les matins. C'est en fait une grosse cuillère pleine de mon sperme. Ça ne l'affecte pas physiquement. Je ne l'ai jamais abusé sexuellement d'une autre manière. Donc là, c'est difficile de comprendre, mais on comprend quand même qu'il y a une histoire d'abus sexuel, là, s'il parle de son sperme. C'est une gentille petite fille, c'est à cause de la façon que j'ai appris à l'aimer que je réalise à quel point elle doit manquer à sa famille. Mais elle s'est habituée et semble heureuse. Elle me fait confiance et n'a pas peur. On joue beaucoup ensemble et elle rit quand on fait les clowns. Elle sourit et fait la timide quand je l'agace. Elle ricane quand elle m'enlace et parfois elle m'enlace sans raison particulière. Je l'aime et je l'ai avec moi, je ne veux pas la laisser partir. Donc c'est très 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 troublant. On pense qu'on a affaire à un pédophile qui doit l'avoir kidnappé. Peut-être que c'est l'homme justement en habit de jogging mauve. Voilà. On est pas mal sûr de l'authenticité de cette lettre parce que, bon, c'est pas toute la lettre en entier qui a été rendue publique parce que les détectives veulent pas donner ces informations, mais il y a quand même des bouts dans la lettre, des informations que seule la personne qui a enlevé Nileen pourrait connaître. Donc, les détectives, oui, savent ces informations, la famille, mais c'est pas des informations qui ont été rendues publiques. Donc, oui, on pense que cette lettre est authentique. La lettre venait de la ville de Madison, au Wisconsin, et après avoir reçu la lettre, après que la police ait reçu la lettre, il y a un témoin qui dit avoir vu une petite fille qui ressemble drôlement à Nyleen dans un resto de Janesville au Wisconsin. Donc comme je vous dis, il y a beaucoup de villes ou des pays qui sont mentionnés dans cette lettre ou dans cette histoire, et c'est exactement les endroits où on croit avoir vu Nyleen. Dans la même période, il y a plusieurs appels qui ont été passés à l'organisme Child Find, et l'homme qui appelait, c'est lui qui disait qu'il était l'auteur de la lettre. On a traqué les appels, ils venaient de des cabines téléphoniques un peu partout là, à travers les États-Unis, mais il y a une cabine téléphonique qui a été traquée dans une pharmacie de Edgerton, dans l'état du Wisconsin, encore une fois. Un autre truc qui est assez étrange aussi, c'est que dans la lettre, on parle d'une Kay, donc Kay, c'est un nom de personne, et le nom complet de Nyleen, c'était Nyleen Kay Marshall. Encore là, bon, je sais pas si c'était des informations publiques, mais, tu sais, en tout cas, l'auteur de la lettre l'appelle la petite Kay, donc lui, il savait là, que c'était son vrai nom. Après la réception de cette lettre, il y a aussi un individu qui aurait appelé pour dire que, en fait, c'est lui qui avait kidnappé Nyleen. Il l'a tué et s'est débarrassé de son corps dans une mine d'Helena. Cette information vient quand même contredire le témoignage de la lettre, que l'homme dit qu'il garde Nyleen avec elle, qu'il en prend bien soin. Là, il y a un autre homme qui dit qu'il l'a tué puis s'est débarrassé de son corps. Et on a fouillé genre toutes les mines d'Helena en entier, mais on n'a jamais retrouvé la petite Nyleen. Malheureusement, après toutes les lettres et les appels, on n'a pas reçu d'autres informations concernant la disparition de Nyleen. Donc en fait l'enquête pour Nyleen Marshall est comme tombée à plat jusqu'en juin 1990 quand la fameuse émission Unsolved Mysteries a parlé de la disparition de Nyleen, qui est assez étrange en effet. Unsolved Mysteries, c'est une émission qui était super connue. On a parlé par exemple de la disparition de Cindy James, si je me trompe pas, que j'ai déjà parlé dans une vidéo. Ben c'est toutes des disparitions mystérieuses. Et heureusement, en parlant de Nyleen Marshall, il y a quelqu'un qui a écouté l'émission et qui a dit « Hey, cette petite fille-là me dit vraiment quelque chose. » En fait, c'est quelqu'un qui travaillait dans une école primaire de Vancouver. Et en voyant Nyleen à la TV, ça lui a rappelé une élève à l'école où il travaille. La petite fille s'appelait Marianne Kelly et c'était une jeune fille qui vivait seule avec son père, Robert Kelly. Et ben, ça... Tu sais, si Nyleen était encore en vie dans les années 90, ben ça serait possible qu'elle habite seule avec un homme et cet homme-là prétend être son père. Donc la personne a appelé l'émission Unsolved Mysteries et on a fait une grosse enquête à savoir si la petite Marianne Kelly était en fait Nyleen Marshall. Mais non, malheureusement, c'était pas Nyleen, mais grâce à cet appel un peu random, on a résolu une autre disparition. La petite fille n'était pas du tout Nyleen Marshall, mais elle s'appelait plutôt Monica Bonilla. C'est une jeune fille qui avait été enlevée par son père, un homme du nom de Guillermo Bonilla, et il avait enlevé sa fille en 1982. Et c'est assez fou cette histoire, en fait, c'est la petite Monica Bonilla, elle vivait en Californie avec sa mère Rosemary et son père Guillermo. Et ses parents se disputaient vraiment toujours. Et son père, Guillermo, s'est mis à souffrir de gros problèmes de maladie mentale. Et il est devenu un petit peu fou et même qu'il est devenu obsédé avec John Lennon et il a tout fait pour lui ressembler le plus possible. Et en effet, il y a eu genre des grosses transformations pour ressembler à John Lennon. Et le 22 septembre 1982, Guillermo a enlevé sa fille Monica, sans le dire à Rosemary, la mère de Monica, et ils sont juste disparus. C'est des histoires qui arrivent quand même souvent, malheureusement, des enlèvements d'enfants de l'un des parents biologiques, surtout quand il y a des problèmes de dispute au sein de la famille. Donc la pauvre femme, Rosemary, cherchait sa fille depuis 1982. Elle a dépensé quelque chose comme 20 000 $ pour retrouver sa fille. Et là, grâce à l'émission Unsolved Mysteries, 1990, on l'a retrouvée. Donc c'est fou quand même, hein, genre l'impact de des vidéos comme ça, ben là, c'est mes vidéos YouTube, mais juste Unsolved Mysteries, c'était des émissions qui parlaient de disparition. Et regardez, là, on a résolu une disparition grâce à ça, moi ça m'impressionne. Mais bon, malheureusement, la petite Nyleen Marshall est toujours portée disparue. Donc pour revenir à l'émission Unsolved Mysteries, dans l'émission, on a montré des portraits robots d'un homme et une femme qui étaient soupçonnés de faire beaucoup d'enlèvements d'enfants dans les années 80 aux États-Unis. Et là, l'oncle de Nyleen Marshall qui a regardé l'émission sur sa nièce, il a vu les deux portraits robots. Puis il a dit « Hey, mais j'y connais ces personnes-là. » Il était impliqué dans les recherches la première journée où Nyleen est disparue. En fait, ils ont fait des grosses recherches dans la forêt nationale. Et l'oncle, en voyant ça, il était sûr, il dit non, c'est ce couple-là, il était dans les recherches. Donc, ça se pourrait que ça soit les responsables de l'enlèvement de Nyleen. On l'a vu dans plusieurs autres histoires de disparition, que souvent les suspects numéro un ou les personnes impliquées dans la disparition vont aider dans les recherches pour être très proche de la famille, très proche des policiers et pour savoir ce qui se passe. Donc oui, on a une petite idée de qui pourrait avoir enlevé Nyleen, mais on n'a jamais retrouvé ses suspects. T'sais, on n'a pas de nom, on n'a pas de photo, on a juste genre un portrait robot. On est pas mal sûr que Nyleen s'est fait enlever. Peut-être qu'elle est encore en vie aujourd'hui et elle sait pas qu'elle est portée disparue. Elle pense juste que l'homme qui l'a kidnappée est genre son père ou quelque chose comme ça. C'est aussi possible qu'elle se soit perdue dans le parc et qu'elle soit morte de faim, de soif, de froid. Mais ça me surprendrait. Je pense qu'on l'aurait retrouvée. Et toute cette histoire sonne vraiment comme un enlèvement, malheureusement. En 1994, la famille de Nyleen est déménagée au Japon parce que c'était trop difficile pour eux de rester aux États-Unis ou dans l'État du Montana. C'était beaucoup de mauvais souvenirs et bon, ils voulaient, j'imagine, repartir à zéro. Après 9 ans de disparition de ton enfant, ben peut-être que justement, tu veux pas comme repartir à zéro, mais tu dis, écoute, il faut qu'on continue avec notre vie, là, tu peux pas rester sur pause tout le restant des jours. Bon, je l'ai pas vécu, mais bon, c'est ce qu'ils ont fait. À part tout ce qui s'est passé, un autre truc bizarre dans cette histoire-là, c'est qu'en 95, donc l'année après le déménagement au Japon, la mère de Nyleen était en vacances au Mexique et elle s'est fait violer et assassiner. C'est vraiment fou, mais tristement, ce meurtre n'a rien à voir avec l'histoire de Nyleen, c'est juste genre deux histoires différentes, mais c'est fou, t'imagines genre les grands-parents de Nyleen, le beau-père de Nyleen, as-tu vu la disparition de ta fille ou ta petite-fille? Et ensuite, le meurtre de ta femme ou ton enfant. Moi, ça me fait capoter cette histoire-là. C'est vraiment triste. C'est une drôle de coïncidence. Mais bon, j'espère que Nyleen et sa mère sont ensemble au paradis, là, qu'ils se sont retrouvés. Donc voilà pour cette histoire. Je trouve que c'est vraiment, vraiment une disparition intrigante. Encore une fois, dans un parc national. Mais là, je pense pas que je voudrais l'inclure dans ma série Missing parce que c'est juste comme... Mais là, on parle d'un kidnapping d'enfants, on parle pas d'une disparition en parc national, là. Ben, du moins, c'est ce qu'on croit. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Ça faisait longtemps que j'avais parlé de disparition. On se revoit dimanche pour une autre vidéo, une théorie du complot. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil vert. Over and out.